RMC Intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
L'Intégrale Rio 2016 sur RMC, il est 4h du matin en France, 23h à Rio. On est avec la Dream Team, Isabelle Severino, bonjour.
Bonjour.
Et Brahim Asloum, salut Brahim.
Salut Pierre. Salut.
T'as récupéré, j'ai l'impression, par rapport à hier.
J'ai fait une petite sieste, pour pas te cacher.
Ah, c'est ça. Nos invités, bien sûr, tout au long de la nuit sur RMC. On est en direct du Club France. C'est la fin des Jeux et on vient fêter les médailles. On vient boire des coups aussi, se détendre, hein, parce qu'il y en a qui sont ici encore à Rio, mais qui ont fini leur compétition depuis un moment, Isa. Hein. C'est
oui.
De plus en plus festif. Hein.
Bah, il y a de plus en plus d'athlètes, donc c'est vrai que le Club France, c'est chouette. Et puis tout le monde n'a pas forcément l'occasion de discuter. Même au village, on est un peu dans sa compétition. Et puis, il reste la cérémonie de clôture qui est aussi un très bel événement quand, pour ceux qui, par exemple, n'ont pas fait peut-être la cérémonie d'ouverture.
Voilà, alors ça sera demain soir entre 1h et 4h du matin et on le vivra bien sûr sur RMC. Les vice-championnes olympiques de handball se succèdent dans ce studio. Nous sommes avec Camille Aiglon et Siraba Dembélé. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Bonsoir.
Ça fait quoi d'avoir une médaille d'argent autour du cou?
Ça fait mal au cou, mais on est d'accord.
Elles sont particulièrement lourdes, hein, ces médailles.
Ça pèse.
C'est quand même la première de la France, hein, handball féminin.
Oui.
Vous avez quand même accompli quelque chose d'unique.
Oui, je crois qu'on s'en rend pas bien compte encore, mais c'est vrai que pour nous, c'est magnifique, pour le handball féminin, mais aussi pour nous, notre groupe. Tout ce qu'on a pu vivre, tout le travail qu'on a pu accomplir depuis quelques mois, et cette médaille, elle est belle pour nous.
Alors c'est donc la première du handball féminin et c'est à l'issue d'une campagne totalement incroyable parce qu'il y a eu des matchs à rebondissement, il y a eu des mi-temps ratés, il y a eu des moments où vous étiez en état de grâce. Finalement, il a manqué que cette finale contre la Russie hier. Comment vous l'expliquez cet échec? Les Russes étaient intouchables?
Mais je sais pas si elles étaient intouchables. En tout cas, elles ont fait un très beau match. C'est une très très belle équipe. Très forte physiquement avec des joueuses exceptionnelles, donc voilà quoi, ça a été un beau match et je pense que la meilleure équipe l'a emporté.
Alors vous avez eu des gros problèmes en attaque, notamment en début de match. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Camille, sur ce début de match? Vous avez une explication, vous avez des réponses?
Je crois qu'avant toute chose, c'est vraiment une équipe très bien en place qu'on a eu en face de nous sur le match de poule, parce qu'on les a déjà croisés en poule. C'est vrai qu'on avait été très inspirés en attaque. On s'est encore revus avant de jouer ce match à la vidéo en se disant on avait vraiment bien joué en attaque. Malheureusement, ça s'est un petit peu moins bien passé. Je pense qu'elles avaient forcément analysé notre jeu et puis on a surtout manqué un petit peu d'écartement. Peut-être qu'avec la fatigue, ça a été compliqué. Et elles nous ont vraiment imposé un combat physique très rude, comme on a su leur imposer de l'autre côté du terrain.
On aurait pu croire ou imaginer qu'à un moment donné vous lâchiez un petit peu, parce que déjà d'avoir une médaille et se dire souvent ça arrive, on a fait déjà notre exploit. Il y a eu un match d'avant-match et finalement moi je vous ai trouvé extrêmement combative, toujours vraiment proche, et vous êtes allé chercher même quand il y avait un petit peu d'écart. Où est-ce que vous avez trouvé cette force encore pour aller chercher cette médaille d'or qui était à votre portée, moi je pense, totalement?
Oui, c'est vrai que même si on était en lutte pendant quasiment tout le match, on a réussi à revenir à un but. Et on les a vus vraiment.
Égalité, exact.
Et c'est vrai qu'à ce moment, on les a vus complètement déstabilisés. Je crois que c'est une de nos plus grandes forces. On l'a démontré sur plusieurs matchs.
C'est
d'être capable de revenir, de rien lâcher. Et malheureusement, je pense qu'elles étaient bien préparées. C'est une équipe vraiment très forte et même si on est revenu à égalité, même si on a combattu, parce que je pense que c'est vraiment l'une de nos plus grandes forces, cette équipe c'est vraiment une équipe qui lâche rien. Mais ce soir ça a pas suffi, tout simplement.
Camille Aiglon, Siraba Dembélé dans l'Intégrale Rio 2016 sur RMC. Racontez-nous un peu les coulisses de ces matchs là. Il y a eu un quart de finale contre l'Espagne qui était hallucinant parce que vous ratez complètement votre première mi-temps, vous êtes mené de 7 buts et puis vous renversez le match, donc vous revenez et ensuite vous gagnez dans la prolongation. Il se passe quoi dans ces matchs-là à la mi-temps? Sur quoi ça se joue en fait, Siraba?
Sur quoi ça se joue à la sérénité, de repenser à tout ce qu'on a traversé.
C'est-à-dire que vous n'avez jamais paniqué dans ce match.
Ouais,
c'est ça ?
Exactement, on n'a pas paniqué. Quand on arrive à la mi-temps, qu'on voyait qu'on perdait de 7 buts, voilà, on pose les choses, on analyse ce qui ne va pas, et surtout qu'on se dit qu'il reste 30 minutes, et en 30 minutes, tout est faisable. On a vu des scénarios, des matchs se renverser. Par exemple, Olivier nous l'a bien rappelé, je pense que ça nous a vraiment donné une force supplémentaire. C'est le Mondial 2003, les filles, elles perdent de 7 buts à 10 minutes de la fin, elles arrivent à gagner. Enfin, il y a 4 ans, les Norvégiennes, elles perdent de 7 buts pareil en quart de finale, elles arrivent à gagner. Et je pense que ça nous a donné une force et surtout nous a montré que c'est possible. Et on savait très bien qu'on avait très mal joué et qu'on avait une très grande marge de manœuvre encore. Et on a tout joué sur ça, quoi, en fait.
Alors, vous revenez quand même en fin de deuxième mi-temps, hein. Ça se fait pas tout de suite, tout
ça
de suite.
Mais justement,
en revanche, quand la prolongation démarre, on sent que ça va être pour la France, quoi.
Bah, je crois Camille. Que clairement, à ce moment-là, le rapport de force s'était inversé. Je pense que les Espagnoles, quand elles étaient à plus 7, elles ont commencé à se dire que ça sentait bon, forcément. Parce que, justement, quelques jours après, ou même le soir même, je crois qu'on regardait le match suivant, où à un moment donné, il y avait l'équipe qui était menée comme nous de 7 buts à la 46e minute, donc 15 minutes avant le terme de. Et on dit, on était dans la télé, puis on fait, bon, bah, je crois qu'on peut zapper, parce que de toute façon. Et puis, en fait, on s'est reprise toute seule en se disant, non, mais en fait, c'est ça qu'on a fait, nous, tout à l'heure. On était dans cet état-là, à ce moment-là, et on a su revenir, et c'est vrai que, même en le racontant, ça paraît encore un peu dingue, mais je pense que psychologiquement, pour une équipe, quand l'équipe en face fait une remontée comme ça,
c'est impossible.
Très très dur à encaisser, quoi. Ouais.
Camille Aiglon et Siraba Dembélé, donc vice-championne olympique de handball. On va parler du rôle de Olivier Crumbles quand même.
Non, mais quand on entend vice-champion olympique, ouais, c'est beau, c'est beau. C'est jamais évident de perdre une finale, c'est peut-être la plus frustrante. Ça passe plus facilement quand tu perds une demi, mais une finale, ça s'arrache, et quand tu la perds, voilà, tu te dis j'étais pas loin.
Bah, surtout tu finis en fait la compète sur une défaite, c'est ça qui est dur, en fait.
C'est ça.
Oui, parce qu'on a, vu beaucoup
de parcours exceptionnel,
hein, et de larmes, et c'est vrai qu'après il faut relativiser aussi, mais sur le moment c'est
extrêmement champion olympique, ouais.
Ah, mais je crois que notre passage ce soir au Club France nous fait beaucoup de bien, parce que le nombre de fois où on a répété, on vient de faire quelque chose, on vient de marquer l'histoire de notre sport, on est vice-champion olympique, à chaque fois qu'on l'entend on fait waouh, ça claque quand même. Et les heures passant, c'est vrai que la déception du moment, parce qu'on est des compétitrices et que dans n'importe quel match, encore plus une finale, on a envie de la gagner, mais c'est vrai qu'on va prendre un petit peu plus de recul, et je crois que demain matin, quand on va ouvrir les yeux, qu'on va la voir sur la table de nuit, on va dire non,
ce qui est beau,
on
c'est
l'a vraiment fait, quoi.
Et t'as la médaille, t'as la médaille dans la main, et tu la lâches pas, elle est autour du cou, mais tu la lâches pas, c'est beau.
C'est clair. C'est beau. Et puis je crois qu'en plus, nous les anciennes, on a connu au moins une voire deux Olympiades qui avaient fini de manière vraiment cruelle en quart de finale, et voilà, ça fait enfin les choses ont un peu tourné dans notre sens, parce que on s'est bien rendu compte dans notre parcours qu'il y a des moments cruciaux, que ce soit en quart, en demi, ça se joue sur des détails, et voilà, jusqu'à présent les détails ils avaient jamais tourné en notre faveur, donc voilà. Aujourd'hui on prend.
Ouais, parce qu'en sport co le quart de finale c'est le match le plus difficile, puisqu'il y a rien au bout, hein. Il y a éventuellement une qualif en demi, mais si on perd c'est terminé, et vous aviez un peu le syndrome du quart de finale, donc cette fois-ci pas de syndrome, l'Espagne balayée. Et c'est bon pour la suite. Alors, parlons du rôle d'Olivier Crumbles, parce qu'il a été pendant des années le coach emblématique de cette équipe. Ça s'est terminé parce que plus personne, en fait, ne voulait que ça continue, a priori.
Hein,
vous n'êtes pas d'accord,
qui,
non,
plus personne.
Non. Bah, au sein de la Fédé, les joueuses, lui-même, il y a un truc qui était arrivé au bout, non ?
Nous, on n'a rien à voir dedans. Moi, je sais pas ça. Nous, on n'a rien à voir là-dedans.
Les joueuses auraient bien continué avec lui il y a 4 ans ?
Bon, en tout cas, on nous a pas consulté.
Hein. D'accord. Bon, toujours est-il qu'il est parti, que derrière ça s'est mal passé, et qu'il a été rappelé un peu en pompier de service. Il y a un peu moins d'un an, c'est ça ?
Non, il y a 4 mois.
C'était en janvier, non ?
En janvier, mais on s'est revu qu'au mois de mars.
Oui, il a été officiellement nommé en janvier, mais vous avez recommencé à bosser qu'au mois de mars. Donc c'est quand même un petit miracle ce qui s'est passé, Camille. Non ? Bah,
clairement, je pense que c'était l'homme de la situation quand on a su qu'il y avait changement de sélectionneur. je pense que pour toutes les anciennes notamment qui avaient déjà travaillé avec lui, à une échéance aussi proche des Jeux, voilà, Olivier connaît tellement bien le handball féminin, connaissait énormément de filles de cette équipe et on avait déjà travaillé ensemble. On n'a jamais eu de titre, toutes les joueuses qui sont actuellement dans cette équipe, mais on a été deux fois vice-championne du monde. Donc voilà, il y a un vécu, il y a une vraie confiance. Donc c'est pour ça que je veux dire, c'était pas les joueuses qui voulaient plus d'Olivier Krumbholz à l'époque. Et voilà, il y avait vraiment une confiance. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de pouvoir rattraper tout ce temps-là et de faire cette mission commando qui nous amène aussi aujourd'hui sur le podium.
On dit qu'il a quand même adapté sa façon de manager parce que c'est quand même quelqu'un de rigide, strict. En tout cas, il a cette image-là et que manifestement sur.
Ils ont pas l'air.
Tu veux dire, c'est un coach quoi.
Non mais
tous les coachs sont comme ça.
C'est quelqu'un qui demande énormément de rigueur, qui chipote sur des détails et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est dur. Mais effectivement, c'est pas que je dirais qu'il est moins dur, mais.
Il est minutieux.
Ouais, très minutieux même. Très très minutieux.
Mais est-ce qu'il y a eu un changement quand même?
Oui, je pense qu'il y a eu un changement. Il est beaucoup plus dans l'échange avec tout le monde, dans l'écoute, il écoute beaucoup ce qu'on a, notre opinion tout simplement. Je pense qu'il nous fait pas faire des choses que forcément il nous sent pas capable de faire. Voilà quoi, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là où il a changé.
Siraba Dembélé, Camille Aiglon, Camille, tu veux rajouter quelque chose sur Olivier Krumbholz?
C'est vrai qu'il y a aussi cette image un peu de gueulard des gens qui le voient à l'extérieur, et parce que sur les bancs de touche, il n'est pas toujours zen. Et d'ailleurs, sur ça, il a changé aussi parce qu'il
a pris un carton encore aujourd'hui.
Ouais, mais bon, ça c'est normal. Ça. Non, mais je pense que cette image de l'extérieur du mec qu'on voit crier sur le banc pendant longtemps, ça a véhiculé une image de tyran, alors qu'en fait, en dehors du match, quand il était avec l'adrénaline et tout ça, il n'est pas du tout comme ça au quotidien dans le travail. Et je pense que là, il a pris du recul et qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Et il a contribué à nous amener justement sa sérénité, je pense, sur la compétition.
C'est comme Louis Acarias, Brahim. On a l'impression qu'il est... Non, en fait, il est vraiment comme ça.
Non, il est dur à l'entraînement, mais c'est un mec génial. Ouais.
Non, mais il est expansif aussi dans la vie. Hein.
Ouais. Oui, mais c'est un personnage, mais en même temps, c'est pour ça que je le kiffe. Il est intéressant, il est fascinant, il y a toujours un truc extraordinaire chez lui. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, il va s'arrêter sur des détails, mais c'est ce qui m'a fait comprendre que le poète champion, c'est ces tout petits détails qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, et que voilà, il faut quelqu'un de l'extérieur qui arrive à le pointer, à le souligner pour que derrière on arrive à surpasser.
Camille Aiglon et Siraba Dembélé, donc vice-champion olympique de handball. Il faut qu'il continue, Olivier.
J'aime bien quand tu répètes.
redis-le.
T'inquiète pas, on peut le dire tant qu'on veut, hein. Il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, maintenant c'est marqué sur le CV, hein. Ne vous inquiétez pas, les filles, hein. Il faut qu'il continue, Olivier.
Moi, je pense que déjà, tous les sceptiques, la meilleure réponse qu'on pouvait apporter, c'est celle-là, celle d'être sur le podium aujourd'hui, parce que justement, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, ça n'a pas toujours été tendre pour nous, joueuses, pour Olivier qui est revenu, tout le monde ne voyait pas forcément ça d'un bon œil non plus. Et voilà, je trouve que pour nous, avant tout, c'est merveilleux, et puis voilà, c'est quand même un bon petit pied de nez à tous ceux qui étaient mauvaise langue sur cette dernière. Ces derniers mois et voilà, je pense qu'effectivement Olivier a montré qu'il était toujours capable d'être l'homme de la situation.
Alors il y a une fille dans l'équipe qui est peut-être malheureuse ce soir, ou en tout cas qui partage pas autant que les autres ce bonheur, c'est Chloé Bulleux qui a été donc remplacée pour la finale. Le règlement des jeux fait que elle n'a pas de médaille. Est-ce que vous confirmez si. Que si c'est
ah,
bon
ah si elle est très heureuse, elle a eu la médaille, d'accord. Elle est montée sur le podium.
Est-ce qu'il a fallu faire une demande spécifique ou pas? Parce que non. Alors peut-être que le règlement a changé.
En fait, le règlement, c'est que le P, donc c'est le statut de cette joueuse remplaçante, à partir du moment où elle a joué pendant la compétition, voilà. Elle a le droit à la médaille. Si ce remplaçant ne rentre pas sur la compétition, il n'a pas de médaille. Par contre, il y a une vraie malheureuse ce soir, et c'est Blandine Dansette qui a été qui a été blessée, et donc qui a plus le statut ni de remplaçante ni de joueuse, et donc qui est restée à Rio parce qu'elle voulait nous soutenir tout au long de l'aventure, mais qui aux yeux du comité olympique là ne fait plus du tout partie de la compétition, donc elle a dû suivre le podium en tribune. Elle a même pas pu venir faire la photo avec nous. Elle n'a pas de médaille alors qu'elle a joué quand même, qu'elle a été sur 5 feuilles de match sur l'ensemble. Donc ça c'est vraiment très très dur. Et là la rigidité des règles olympiques, elle en devient un peu incompréhensible, comme le fait que le coach
n'ait pas de médaille.
C'est quand même des choses qui sont un peu aberrantes.
Alors a priori, ce que font les fédés françaises dans ces cas-là, c'est qu'elles font une réplique de la médaille. Hein. Donc je sais pas si ça suffira à apaiser un peu sa peine, mais bon, c'est quand même quelque chose qui compte. Hein. Vous allez en faire quoi de vos médailles d'ailleurs, vous savez ou pas?
Je vais la donner à mes parents parce que sinon je vais la perdre.
Et Camille, je pense qu'elle va la garder dans la main. Moi je la donne à mon petit garçon qui m'attend à la maison et qui m'a dit: maman, tu rentres avec une médaille.
Donc, il a quel âge?
Il va avoir 3 ans en septembre.
Alors à 3 ans, comment il fait pour suivre les matchs avec le décalage horaire et tout ça? C'est bien passé? Il a vraiment tout capté à cet âge-là?
Apparemment, il disait: trop chouette, maman. Maman, elle a gagné, trop chouette. Et puis là, tout à l'heure, il a dit: c'est pas grave, maman, t'as la médaille. Donc, c'est bien, ça aide à prendre du recul aussi.
Et donc, tu pouvais communiquer avec lui via Skype ou des trucs comme ça?
Voilà, heureusement qu'il y a tout ça parce qu'il n'était pas ici, donc ça fait un petit peu long. Et le décalage horaire.
Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu?
Depuis qu'on est parti, on est parti le 28. Non, de quoi le 30? Ouais, le 30 août.
Camille Aiglon et Siraba Dembélé, vice-championne olympique de handball. Vous garderez quoi comme image de ces jeux, Siraba?
Je crois que la plus belle image, c'est nous sur le podium. Quand on pose le pied sur le podium, j'étais tellement triste à la fin du match. Franchement, j'étais très très triste. Mais quand on a posé le pied sur le podium, j'avoue que là, j'ai regardé au ciel et j'ai vraiment ressenti une immense joie. Je crois que c'est l'image qui me reste.
Toi, Camille?
Moi, j'avoue que j'étais comme Siraba. J'arrivais pas à être vraiment dans la joie. Déjà, quand j'ai vu le plateau des médailles arriver, qui me l'a mise autour du cou, je me suis dit: oh, on l'a fait, en fait, vraiment. Je crois que ça m'a fait un peu un déclic. Mais après, ça, c'est juste un ressenti. Mais c'est surtout tous les moments qu'on a partagés. Et la dernière explosion de joie, tout ensemble, quand on s'est qualifié pour la finale, c'était magique.
Merci beaucoup, mademoiselle. Encore bravo. Maintenant, vous allez faire quoi? Et vous rentrez quand en France?
On arrive mardi matin.
Le 22,
ouais. D'accord. On va supporter les garçons demain.
Demain, vous allez à la finale des garçons?
Ouais, bien sûr.
Enfin, demain, c'est aujourd'hui, hein, puisqu'il est déjà 4h18 en France. Ouais. Merci beaucoup Camille Aiglon, Siraba Dembélé. Je me dépêche de vous remercier parce que j'ai un chat dans la gorge. Je reviens tout de suite dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC.
Merci à vous.
RMC, intégrale Rio 2016. RMC Intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
Avec Brahim Asloum et Isabelle Severino, c'est l'Intégrale Rio 2016. Il est 4h18 sur RMC et on va parler volley maintenant avec un international qui a deux nationalités. C'est Raphaël Redwitz qui a porté les couleurs du Brésil et de la France et qui ici anime le Club France avec Frédéric Le Canu. Salut Raphaël.
Bonsoir, pour une fois qu'on peut dire bonsoir, hein, je pense, au Brésil et en français.
Pourquoi tu dis ça?
Non, parce que les décalages horaires, parfois on dit bonjour, c'est le
soir. Nous on s'y perd. Là, je t'avoue, là, au bout de 16 jours, on ne sait plus s'il faut dire bonjour aujourd'hui, demain, hier, bref.
Surtout à la fin.
Surtout à la fin, t'as raison, il est 4h19, mais il est encore 23h19 au Brésil, donc on n'a pas passé le cap des minuits. Raphaël, avant de parler du volley, est-ce que t'as suivi les tirs au but du tournoi de foot entre le Brésil et l'Allemagne, t'as pu?
Évidemment, pour nous, Brésiliens aussi, c'était, on rappelle, hein, le foot, c'est la religion ici, donc ça compte même pas aux Jeux Olympiques, parce que ça compte même pas comme sport, donc on avait vu, même ici au Club France, il y avait une foule énorme sim, finir au tir au but avec un but de Neymar, un premier titre d'histoire de foot aux Jeux Olympiques, donc c'est quelque chose d'assez sympa. Et merci la France de m'avoir aussi donné l'opportunité d'être là et vivre ça aussi un tout petit peu avec mes frères.
Ça atténue un petit peu le 7-2 de
la Coupe du Monde. Surtout contre l'Allemagne en plus, ça vient donner
un peu de réconfort.
Voilà, on avait besoin, on sait que le foot, hein, on connaît la puissance de cette sport, donc mine de rien, ça donnera un peu aussi de confort au peuple brésilien qui certes, on passait des beaux Jeux Olympiques, mais à l'interne, on se souvient, il y a un peu de difficultés. Donc, tant mieux que donner un peu de joie à ces peuples-là.
Et pour Neymar, quand même, c'était une pression énorme. Là. Et parce que lui, il a vécu la Coupe du Monde il y a 2 ans, même s'il ne jouait pas la demi-finale, hein, faut le rappeler. Mais c'est lui qui tire le dernier pénalty, quand même.
Mais d'ailleurs, c'était vraiment le grand tournant hein, de l'époque. On se rappelle sa blessure au dos. Vraiment, lui, il portait vraiment l'équipe. Et là, on a vu encore une fois, lui, on se rappelle, aux Jeux Olympiques, on ne peut pas appeler tous les joueurs les plus forts de chaque nation. On doit respecter l'âge de 23 ans, je pense. Et après, on a l'exception de 2 joueurs qui peuvent intégrer. Neymar a fait partie et on connaît l'importance de ce joueur par rapport à son charisme, son leadership et sa qualité de jeu aussi.
Alors toi Raphaël, t'as découvert la France et t'as été adopté par la France un peu grâce au volley puisque ta carrière t'a mené dans le championnat de France. Est-ce que demain tu vas pouvoir quand même profiter de cette finale qui va être un moment brûlant de ces Jeux, finale du volley entre le Brésil et l'Italie? Est-ce que tu vas pouvoir aller au Maracanazinho ou tu vas travailler là au
club? Non, ça c'est heureusement j'ai réussi à négocier ma petite Bravo. Sortie. Non, demain on fera les activités après les cérémonies de clôture, donc le match est assez tôt. J'aurai vraiment comme tu as dit, le plaisir de pouvoir y aller comme supporter de Brésilien, tranquille, regarder un derby de volley mondial Brésil-Italie, ça sera magique.
T'as des copains dans cette équipe du Brésil?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir joué avec quelques-uns, d'être proche avec des autres, notamment aussi des gens du staff. Donc c'était eux, grâce à cette staff-là, qu'aussi m'ont ouvert la porte au haut niveau. C'est quand j'étais jeune dans ma ville natale, eux ils avaient une équipe là-bas, ils m'ont aidé à partir, à trouver une équipe pro. C'était eux qui m'ont un peu ouvert les portes, donc je suis content aussi pour eux de finir ces cycles. C'est, je pense, c'est 4e finale d'affilée pour les Brésiliens, les 4 dernières éditions. Il y a le Libero qui jouera sa 4e finale. Ils ont gagné 1 fois, ils ont perdu 2, donc finir là cette cycle, je pense, pour cette staff, l'entraîneur qui ici c'est le roi, ça sera bien de voir. Je suis content d'y
être. Ils vont gagner, tu penses? Les Brésiliens?
Je pense.
L'Italie a fait un très très beau tournoi. Hein.
Oui, l'Italie est vraiment montée en puissance. Physiquement, c'est une équipe costaud. Et ils ont naturalisé un joueur cubain. Certes, ça faisait un petit moment qu'il jouait déjà en Italie aussi, mais il a donné vraiment notre puissance à cette équipe, Juan Torren. Et ça va être vraiment un match très difficile parce que le Brésil, la pression à la maison, on se rappelle, hein, les équipes favorites brésiliennes, pour l'instant, n'ont pas assumé les statuts. C'est vrai que c'est compliqué. Et là, on verra.
Et
quand même
les beach volleyeurs qui sont champions olympiques.
C'est ça. Le beach a réussi. Les filles, ils ont perdu alors qu'elles étaient favorites. On pense aux filles du Brésil en salle aussi, qui étaient champions olympiques avec la même équipe, archi favorite, sans un quart de finale. Donc non, c'est un pays où tout le monde veut vraiment donner de réconfort aux gens. Il y a une pression autour de l'équipe, pas facile à gérer. Pour l'instant, les volleyeurs sur salle s'en sortent pas mal. Après, contre les Italiens, c'est un derby mondial. Il y a beaucoup de rivalités entre ces deux équipes. Donc ça va aussi au-delà de juste de la qualité de jeu jusqu'à présent. Ça va rentrer vraiment dans le statut de la finale pure, quoi.
On est avec Raphaël Redwitz, donc volleyeur franco-brésilien, on peut dire.
C'est ça.
T'as aussi joué pour l'équipe de France et qui anime ici le club France. Alors, dis-nous pourquoi le sélectionneur de l'équipe de volley du Brésil est une énorme star. Hein. Il a le statut presque d'un footballeur.
Oui, il a gagné des titres olympiques avec l'équipe de filles d'abord, l'équipe nationale. Après, avec les garçons, comme j'ai dit précédemment. Il vient de 3 finales avec un titre. En club, ici au Brésil, il gagne, je pense, des 10 dernières éditions du championnat brésilien, il a gagné 8. Et c'est un charisme énorme. C'est le père aussi de passeur d'équipe nationale. Sa femme, c'était une ancienne joueuse. Il vient vraiment d'une bonne famille ici au Brésil. Il dégage vraiment l'état d'esprit de Brésiliens, de rien lâcher. Ils s'entraînent toujours à fond. Des petites anecdotes, tous les entraînements après un titre démarrent 1 demi-heure plus tôt. Donc aujourd'hui, les premiers entraînements commencent à 6h du matin. Donc c'est quelqu'un qui vraiment essaye toujours de chercher de quoi se motiver, de sortir les joueurs de zone de confort. Et ça, c'est, les gens les apprécient. Ils veulent vraiment qu'il soit presque au président de club de foot, voire dans la politique. Donc c'est quelqu'un qui amène vraiment le Brésil vers l'avant.
Alors dis-nous, Raphaël, le tournoi de l'équipe de France, est-ce que t'as été surpris qu'on se qualifie pas pour les quarts, un peu déçu de la performance des Bleus?
Pas déçu de la performance parce qu'ils ont réussi à montrer de bonnes choses. Le problème, c'est que la qualif pour les Jeux, ça a été tellement dur. Ils ont tellement souffert. Ils ont dû se préparer justement pour se qualifier. Donc physiquement, mentalement, déjà que c'est une saison hyper longue pour tous les joueurs. Et ils sont arrivés ici un peu cramés. Et après, au-delà de fait que ce soit aussi la première fois qu'ils fassent les Jeux, j'ai discuté avec eux. Arrivé ici, c'est tout nouveau. Les petits changements, ils n'ont pas l'habitude de faire. On se rappelle, le dernier match, ils avaient encore la possibilité ainsi de battre le Brésil. Mais ils attendaient aussi des résultats du match précédent. Donc, Italie, Canada. Et eux, chaque fois, ils sortaient dans le vestiaire pour regarder le score, pour voir s'ils avaient besoin de gagner le match d'après ou pas, ou juste leur score, ça pourrait suffire. Ils m'ont expliqué que les Brésiliens, aucune fois, ils sont sortis de vestiaire. Donc, c'est une certaine expérience qu'ils ont aussi, qu'ils étaient déjà concentrés dans leur match en disant, nous, il faut qu'on gagne, peu importe ce qui est. Alors que les Français, parfois, ils étaient déjà, on calcule si ces matchs-là nous tombent bien. Donc, c'est des petits ajustements que la France va falloir faire pour le futur. Ils sont arrivés au très haut niveau et ils méritent d'être là. Le plus dur, c'est maintenant de rester et de faire partie des meilleurs tout le temps. Mais cette génération, elle est exceptionnelle. Ils ont un titre européen, une ligue mondiale, en sortant aussi le Brésil ici, à Maracanazinho, il y a un an. Donc, ils ont tout pour y aller loin. Ils sont jeunes, il y a une belle génération qui se connaissent, qui prend du plaisir. Donc, je suis assez confiant aussi pour l'avenir.
Alors, les trois équipes qui ont battu la France dans ce tournoi peuvent se retrouver toutes les trois sur le podium. Hein. Donc, ça, c'est quand même le côté un peu rageant de ce tournoi olympique. Italie, Brésil en finale, ça, c'est OK. Et puis, il y a une place pour le bronze entre les États-Unis et la Russie. La Russie qui a d'ailleurs été l'autre équipe à battre la France dans le tournoi de qualif olympique. Donc bon, c'est voilà, hein, le niveau de la France, il est quand même parmi les meilleurs. Raphaël Redwitz, donc le volleyeur franco-brésilien. Tu sais que Brahim était très très bon à l'école au volley.
Mais j'étais pas mal.
Non,
tu rigoles. Pas. Je te jure que j'étais pas mal.
Il a un bon toucher de balle.
Il faut mesurer quelle taille minimum pour faire du haut niveau,
Raphaël.
Il n'y a
pas de taille. Justement. Ça dépend des positions.
Non.
Ça dépend de ta détente.
Au basket, il y a des mecs d'1m60 ou 1m70.
J'étais très vif. Je servais super bien. Tu vois, Jeanne et Serge, je l'imitais. Je te jure, je vais t'élever.
Service canon.
Pouh! Non, mais j'assurais. Non, mais je rigole pas en plus, c'est vrai. Ah ça va, j'étais pas un crack pour le niveau de l'école, j'étais pas mal.
Non mais c'est ce qui est bien quand on regarde cette équipe de France, il y a des joueurs de petite taille, on pense à l'histoire
petits,
de
petit c'est quoi petit 1,80 voilà. 1,90
oui, voilà. c'est un peu ça, c'est vrai que après il y a des Japonais qui jouent au poste de libéro, on rappelle le libéro c'est celui-là qui est là, qui est pour la défense, pour la réception, pour donner le
volume. Il y a pas le même numéro que le maillot que les autres.
Exact.
D'ailleurs, c'est quoi la raison de
maillot différent? Donc en fait, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait pas assez des échanges qui duraient dans le volley moderne avec tous ces joueurs qui faisaient 2 mètres. Et on a décidé de pouvoir intégrer un joueur qui est plus technique, qui peut avoir une petite taille, qui est là pour vraiment s'occuper de la défense, de la réception, de vraiment nous donner plus de volume au jeu. C'est des joueurs plus techniques, plus rapides. Et il y a des Japonais, des Chinois qui mesurent 1,75 et qui peuvent jouer dans cette poste. Et d'ailleurs, voilà, ça donne la possibilité des passionnés qui sont très bons dans le volley, même dans la petite taille, être un des meilleurs au monde. Il y a un Japonais qui va jouer au Paris Volley la saison prochaine. Je les invite à venir au stade Charletti voir ces Japonais qui est exceptionnel. Il est de petite taille, donc non.
Bon, Brahim, t'as de l'avenir, c'est bon.
Tu peux, ta réconversion, tu pourras.
Raphaël Redwitz, donc le volleyeur franco-brésilien, merci beaucoup. Et puis on espère que l'équipe de France de volley va pouvoir rebondir hein, et offrir peut-être un premier titre mondial à la France. Ils en ont le niveau, on est d'accord hein.
Tout à fait.
Erwin, c'est quand même un joueur exceptionnel.
Ah,
hein.
Oui, c'est tout à fait un des meilleurs joueurs au monde. Voire
vous avez Wallace. Wallace, il nous a enchanté quand même. Hein.
C'est vrai que la détente, on dirait que c'est un Cubain à l'ancienne qui passe au-dessus de tout le monde. Mervin, ouais, c'est un joueur fantastique, une telle créativité, il invente des gestes, il révolutionne le volley, donc déjà qui est pour ça, chapeau, on a de plaisir de voir l'équipe, il y a Jim Grebennikov, c'est le meilleur libéraux du monde, il y a le passeur qui était élu l'année dernière dans la Ligue mondiale, presque 6 nations du rugby, qui au volley, il était élu aussi meilleur passeur. Il y a Kevin Tilly, le fils de coach, qui est monumental. Donc, non, il y a de l'avenir, il y a de la jeunesse, que les gens continuent à regarder le volley. Et j'espère d'ici 4 ans pouvoir de voir une médaille à Tokyo.
Merci Raphaël. Et puis bonne finale donc Brésil-Italie. Ça sera un beau point d'orgue de ces Jeux Olympiques pour le Brésil qui est passé un peu à côté de ces Jeux en termes sportifs. 18 médailles, 6 en or, ça va mieux avec la deuxième semaine, mais au début ça a été difficile. Ils sont 14e les Brésiliens, ils pourraient grappiller quelques places avec cette finale. Merci Raphaël et à très bientôt sur RMC. On continue à l'intégrale Rio 2016 avec Brahim Astoum et Isabelle Severino, il est 4h31.
RMC Intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
L'Intégrale Rio 2016 avec Brahim Astoum et son coq de l'équipe de France sur le cœur.
Yes.
Et Isabelle Severino avec son crocodile que vous connaissez bien sur le cœur aussi.
Oui, toujours.
Moi, c'est la tenue officielle de l'équipe de France pour Isa carrément. Et alors, il y en a un autre qui a la tenue officielle.
Il a même
c'est
la médaille
Maxime
officielle.
Beaumont, le vice-champion olympique du kayak en ligne sur 200 mètres. Salut Maxime, ça va?
Salut.
T'es heureux?
Bonjour à tous.
T'as pris des couleurs, hein?
Ouais, c'est clair, avec la réverbération de l'eau, j'ai pris des couleurs.
Ça va, t'es pas trop fatigué?
Non, ça va, une bonne journée quand même. On a fini la finale à 9h15 là, et ça fait un petit moment là que.
C'est quoi, voilà. Pierre? Je viens de lui serrer la main, je te jure, il a une poigne. Je te jure, c'est.
Déjà, solide. Sa main, elle fait la taille de ton avant-bras déjà.
Ouais.
Alors c'est clair qu'on a un sacré gaillard hein, dans le studio, c'est un sport impressionnant hein, en termes d'efforts physiques. On va parler de ta médaille, des émotions, du podium de cette course, parce que évidemment chaque médaille c'est très intense de ce point de vue là et c'est à chaque fois sur RMC. Écoute Maxime ce que ça a donné tout à l'heure en direct.
Maxime Beaumont toujours en tête, s'il ne s'écroule pas il y aura une très bonne nouvelle dans quelques instants. On a passé la mi-course maintenant, il est toujours devant Maxime Beaumont, il fait la course en tête depuis le début de cette course. Attention quand même au Britannique qui va revenir. Le Britannique va revenir. Il vient de passer devant. Non, il est toujours devant. Allez Maxime, faut s'accrocher, faut aller chercher un podium. Allez Maxime, le Britannique est devant maintenant. Maxime Beaumont qui ne sera vraisemblablement pas champion olympique, mais c'est un podium. C'est un podium, on va attendre évidemment l'officialisation pour Maxime Beaumont. C'est une médaille d'argent pour Maxime Beaumont. Elle est là, la 42e médaille de la délégation française.
C'était chaud, hein, là, c'est chaud, arrivé là. Hein. 200 mètres, c'est vraiment du sprint. Hein.
Je vois que vous l'avez vécu autant que moi.
Tu savais médaille. Pas non plus à quelle place c'était exactement.
Non, je savais que j'étais dans le paquet, je savais que jouais un bon coup là, mais je savais pas quelle place c'était. J'étais.
Alors on jette le bateau à l'arrivée, hein, en kayak en ligne. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une position qui vous permet en fait de faire comme le cassé en athlétisme pratiquement.
Exactement, ouais. On balance vraiment le bateau vers l'avant. C'est le dernier coup de pagaie, un peu. Comme une gondole en fait, on pousse vraiment le bateau en avant pour que il vienne franchir la ligne le premier. Et voilà, donc.
Il a poussé.
Il est arrivé deuxième.
J'ai tout mis.
Explique-nous la technique un peu, parce que c'est vrai que l'aviron, on voit à peu près comment ça marche. Le canoë et le kayak
avec l'aviron.
En eau vive. En eau vive, on voit aussi à peu près comment ça marche. Là, vous êtes sur un plan d'eau. Et donc, c'est des courses tout simplement, toutes simples, hein, basiques. Hein, le premier à l'arrivée est. Champion. La technique, c'est quoi? Il faut changer de côté quand on pagaie pour aller tout droit ou pas forcément? Là, je te pose une question de...
Mais aussi, hein,
ouais,
de aussi.
En fait, si tu veux, le canoë-kayak, c'est simple, c'est deux disciplines. C'est le canoë et le kayak. Donc le canoë, il pagaie que d'un seul côté, il est à genoux. Et le kayak, il pagaie des deux côtés et il est assis. Donc moi, je pratique le kayak, donc je suis assis et je pagaie des deux côtés. Et on a un gouvernail quand même, donc avec une barre à pied... Donc avec laquelle on dirige l'embarcation et ça nous permet d'aller droit.
Ah, tu as un gouvernail,
ouais.
D'accord.
Et donc nous on a juste à penser à pagayer le plus fort et le plus vite possible. Et donc c'est des cadences qui peuvent atteindre quasiment 170 coups par seconde, donc quasiment 3 coups par seconde. Donc ça va très 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 vite et
170 coups par minute.
Par minute, pardon.
Trois coups par seconde.
Soit trois coups par seconde.
D'accord.
Excuse-moi, je suis encore sous l'émotion là.
Alors quand tu dis compare pas le kayak à l'aviron, pourquoi tout de suite cette réaction? Parce qu'on fait la confusion parfois. Ou...
Non, je dis ça en rigolant parce que franchement, en plus l'aviron, l'équipe de France d'aviron est venue nous encourager sur le bassin. C'était top et ça fait vraiment plaisir. Mais bon, voilà, il y a toujours une petite rivalité dans les clubs parce qu'on utilise le même plan d'eau et puis il y a toujours une petite rivalité entre l'aviron et le kayak. Et voilà.
Alors, ça demande quoi comme qualité? Parce qu'on voit que t'es grand, gaillard. C'est quoi les qualités d'un bon kayakiste sur les plans d'eau?
Eh ben, il faut de l'explosivité. Il faut être plutôt musclé du haut du corps. Mais bon voilà, il faut pas négliger l'aérobie, la caisse au niveau de l'organisme. Et voilà, quoi, je pense que c'est comme tout sport de haut niveau, il faut quand même avoir la caisse. Mais en tout cas, pour moi, le monoplace 200 mètres, c'est vraiment des questions d'explosivité. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec les entraîneurs.
Isa.
Non, mais qu'est-ce que ça fait d'être la 42e médaille? C'est-à-dire, c'est quand même la tienne. Bon, après, c'est l'ordre qui fait ça. Qui bat le record du nombre de médailles de la délégation française. C'est quand même sympa.
Bah, elle fait plaisir. En plus, moi, j'avais une petite déception parce que j'étais venu chercher l'or. Et bon, je repars avec l'argent, mais bon, voilà, c'est quand même une belle médaille d'argent et j'en suis aujourd'hui, enfin, maintenant très satisfait. Mais en plus, le fait que ce soit la 42e, ça me satisfait encore plus parce que voilà, on a, oui, je suis de la fédération de canoë-kayak, mais on a l'esprit bleu et on cherche aussi à faire que la délégation française, elle soit la plus forte possible et que là, on ait atteint la 42e médaille et donc d'avoir battu le record de médailles des Français, c'est vraiment génial, quoi.
Et puis, parce que moi, hier, tout le monde n'arrêtait pas de me dire qu'est-ce qui reste, parce que là, on est à qu'est-ce qui reste comme médaille, etc. Tout le monde parlait, donc, de nos équipes, de France, de handball, de basket, etc. Mais il y a personne qui me parlait du kayak, et je disais, demain, il y a kayak, quoi. Et demain, il y a médaille. Non, mais sérieusement, parce que, bon, il y a souvent des médailles qu'on attendait.
Et d'ailleurs,
tu me dois pas un petit resto,
Vous voulez pas que hier. Je vous invite au resto.
Je t'ai dit demain, médaille en kayak.
Oui, mais est-ce qu'on a parié un resto?
J'ai dit même chez moi, s'il n'y a pas demain. Ah non, je t'ai dit s'il n'y a pas demain.
Les mecs qui réécrivent l'histoire, ils veulent tous que je leur offre des restos maintenant. Là, Brahim fait quelque chose.
Oui, mais t'arrêtes pas de dire des choses. Attends, donc.
J'offre le dessert.
Non, Denis Massiglia ne t'avait pas oublié, en tout cas, Maxime.
Sûr. Ah, c'est gentil. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait d'être pas forcément attendu, parce que, enfin, attendu pour les gens qui connaissent le milieu, mais pas avoir cette pression que peut-être d'autres athlètes ont eu et qui n'ont pas forcément concrétisé.
Ouais, je pense que d'un côté c'est un petit peu une chance aussi parce que c'est vrai que d'avoir la pression des médias, des Français, tout ça, c'est aussi une chose à gérer en plus. Et quand on a tellement de choses à gérer lors des jeux, parce que c'est un événement vraiment énorme, que voilà, surtout pour nous qui d'habitude sont un petit peu en dehors de tout ça, c'est sûr que c'est des choses à gérer et qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Donc je pense que j'ai eu la chance un petit peu d'être à l'abri de tout ça, et ce qui m'a permis vraiment de rester dans ma bulle et d'être présent le jour J.
Maxime Beaumont, donc vice-champion olympique en kayak monoplace, merci, bravo, et puis écoute, tu reviens quand tu veux. Nous on est là jusqu'à demain soir, jusqu'à la cérémonie de clôture.
Je dis pas ça, il va foutre le bazar dans le studio.
Avec plaisir.
Bah, merci à vous, et puis merci Isa d'avoir cru en moi, t'es la seule sur ce plateau. Je te remercie.
Merci. Alors en tout cas,
bonne soirée, profite bien.
Bonne soirée, merci.
Tiens, on va jeter un œil au tableau des médailles. La France est 7e avec 9 médailles d'or, 17 médailles d'argent et 14 médailles de bronze, mais il y en aura au moins 2 demain, de plus en or ou en argent, avec Tony Yoka et avec le handball masculin. On aura aussi peut-être une médaille en VTT, hein, on ne sait pas, puisqu'il y a 3 Français au départ qui ont des chances.
Ils sont dans les 5 premiers mondiaux, les 3 Français, mais bon, comme on avait la même en BMX, moi je préfère rester prudente.
Ouais, le cyclisme c'est pas
c'est pas la fête. Top, hein.
Alors, sont toujours les Américains qui sont en tête avec 43 médailles d'or, 116 médailles au total, mais les deuxièmes, et c'est ça a été d'ailleurs le cas sur ta course, Maxime. Ce sont les Britanniques avec 27 médailles d'or, 66 médailles au total. Ils sont deuxième au classement des médailles devant la Chine. Et donc les Britanniques vont peut-être finir à ce classement exceptionnel quand même pour eux. Brahim Nou avec une ou deux médailles d'or en plus, a priori on gagnerait pas de place hein, puisque
non,
le Japon...
mais on se met à l'abri.
On se met à l'abri, oui, puisqu'on est à égalité avec la Corée en nombre de médailles d'or, et puis à l'Australie et l'Italie pas loin. L'équipe de France de voile est dans ce studio. Pierre Lecoq, médaillé de bronze en planche à voile, accompagné de Julien Dortoli, qui a fait la cinquième position en 49er. Merci messieurs d'être avec nous. Bonjour d'abord.
Salut.
Salut. Salut Pierre. Ça va?
Impeccable.
Vous êtes en forme? Vous profitez?
Ouais, on est assez chaud. Ouais.
Ils sont très en forme, les voileux.
Bon, alors, vous entendez peut-être le son des basses du Club France qui arrive jusque dans notre studio, parce qu'à vrai dire, plus les jours avancent et plus c'est la fête au Club France qui se transforme en boîte de nuit. Donc,
ouais, ça devient très animé.
Ah, c'est vrai? Ah putain, j'ai hâte.
Julien Dortoli et Pierre Lecoq. Donc, Pierre, qu'est-ce que tu as fait depuis ta médaille?
Ben écoute, on a savouré ça avec la famille, les amis. On a été supporter aussi les collègues qui avaient encore des courses à faire sur la voile. Et puis on a été supporter aussi d'autres athlètes dans différentes disciplines.
Et
c'était vraiment génial. Du coup, on a été voir. Moi, j'ai été voir le volet. J'ai été voir.
Tu rigoles parce que...
non. Le beach volley ou le volley?
Non, le volley.
Ah d'accord.
Non, le volley c'était vraiment sympa. Et puis après il y a eu le. Aujourd'hui donc j'ai été soutenir le hand féminin. Et demain VTT.
Mais en fait
VTT pour moi.
Il se marre, il se marre.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose.
En fait, je sais pas, c'est peut-être que tu es allé les voir, mais qu'en fait t'as rien vu parce que t'étais déjà sous. J'ai pas un truc dans le genre.
Non, pas du tout. J'ai fait ça sérieusement.
Très bien. Julien, on va parler de ta compétition. Le 49er, ça veut dire quoi 49er?
Et tu parles, ouais, c'est de l'anglais.
Alors, 49er, c'est skiff, mais skiff, je suppose que c'est aussi de l'anglais, non?
Hein, ouais. Bon. 49er, c'est 49e.
Ouais.
Mais c'est parce que le bateau fait 4,90, donc ils ont fait un petit raccourci.
Tout simplement. Le 4,70, il fait 4,70 m, et le 49er, il fait 4,90 m.
Pas mal.
C'est ça. Cinquième, t'as le grand sourire, hein. Apparemment, t'as digéré, ça doit être quand même rageant de finir cinquième d'une compétition olympique.
Ouais, bah c'est sûr, on aurait aimé ramener une médaille, c'est clair, mais après, nous cinquième, c'est notre meilleure perf mondiale qu'on ait jamais faite avec mon équipier, donc c'est quand même un beau truc. On a pris un peu de points au début, après on a fait une super journée, on a bien fini, non, on est quand même content.
Puisque les épreuves de voile, ça se déroule sur plusieurs jours, il y a plusieurs régates, on compte les points, la dernière régate compte double, c'est ce qu'on appelle la medal race, et donc quand tu dis on a pris des points au début, c'est-à-dire que ça s'est pas mal passé au début. Et,
ouais, on a tranquillement attaqué par une manche de dernier. Et puis ensuite on est un peu remis dans le match. Ouais.
Alors qu'est-ce que tu retiendras de ces Jeux de Rio, Julien?
Je retiendrai les médailles des deux planchistes, quoi. En fait, moi c'est bien tombé, c'était juste mon jour de repos. Donc, on avait fait la moitié du championnat, on était pas terrible, on était 14, et puis là on a eu les deux journées sur la plage avec Pierre et Charline, et là ça c'était fou, quoi. En plus les deux ils nous ont fait des petits scénarios
ouais.
Genre ils étaient pas
la suspense.
Ouais, pas fou, et puis d'un coup bam et puis bam, donc ça c'était énorme.
Est-ce que vous voyez tout depuis la plage comme tu dis, parce que c'est vrai que à la télé c'est très bien réalisé hein, on voit les positions etc, mais il y a des calculs à faire quand même hein, puisque c'est des additions de points les classements. Est-ce que vous, comme vous êtes des spécialistes, que vous êtes là-dedans toute l'année, vous savez, vous voyez à l'œil nu si Charline est championne olympique ou si Pierre est médaillé de bronze?
Pas du tout, quoi. Mais non, mais quand on est sur la plage, on voit rien, les écarts latéraux, on sait jamais qui croise devant, c'est un enfer, quoi. Puis la télé, tu as une pauvre image, enfin non, c'est compliqué. Hein.
D'accord.
Non, jusqu'au bout, on sait pas, on est perdu, quoi. C'est...
Bon, ça me rassure.
C'est juste la ligne d'arrivée, quoi.
Nous, on a du mal même avec la télé quand on nous explique tout, donc c'est pour ça.
Non, mais c'est ce qu'on se disait sur la plage, putain. C'est un enfer, quoi. C'est trop stressant, quoi.
Il y a une grosse solidarité dans l'équipe de France de voile, c'est-à-dire que quand toi, t'as ta compétition en cours, que ça se passe pas forcément comme tu veux, t'arrives à apprécier les performances des autres.
Ouais, je crois qu'on, enfin moi c'est la première fois que je fais les jeux, mais je crois qu'on avait une grosse équipe, quoi. On avait une super équipe, les voileux là, on s'est tous soutenus, et puis dès qu'il y avait le jour de repos, on était tous sur la plage pour soutenir les copains quand on naviguait pas et tout, donc Non, non, c'est carrément tiré vers le haut, quoi.
Alors, quand on fait de la voile, c'est quoi, est-ce qu'il y a un, entre guillemets, un dilemme entre faire de la voile olympique, il y a 10 séries qui sont au jeu, ou faire d'autres, enfin, d'autres façons de naviguer, c'est-à-dire les grandes courses au large. Pour toi, par exemple, Julien, c'est quoi, est-ce qu'il y a un dilemme, ou comment ça se présente? Est-ce que pour toi, c'est une route toute tracée, tu restes sur ton 49er, etc., ou t'as des sollicitations pour faire autre chose, je sais pas?
Ouais, bah la voile olympique, c'est le haut niveau, quoi. Le reste,
la route du Rhum, le Vendée Globe, tout ça, c'est pour les amateurs, quoi. Isa.
Non, mais sinon la voile, parce que pour beaucoup de jeux olympiques, souvent ils sont excentrés, ils sont pas forcément avec les autres athlètes. Vu que c'est votre première participation à tous les deux, comment est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez échangé un petit peu avec les autres athlètes ou pas du tout? Plutôt après la compétition, ou comment ça se passe? Parce que vous êtes au village, hein.
Ouais, on est arrivé cet après-midi.
C'est vrai? Ouais, sérieux, fait... vous n'étiez pas logé au village?
Non, en fait, on avait vraiment fait le choix de rester très proche de la marina, et du coup, on avait un hôtel qui était à 10 minutes.
D'accord.
Voilà, et en fait, le village olympique, là, en voiture, tu mets à peu près 2 heures.
Oui, c'est ça. Mais par rapport à d'habitude, où carrément les épreuves de voile sont dans un autre contexte et où on a l'impression que vous faites une Coupe du Monde tout seul de votre côté, mais c'est vos Jeux Olympiques à vous, quoi. C'est pour ça que je voulais savoir si même, bon, pour le coup, vous n'étiez pas au village, mais de faire vraiment partie intégrante des Jeux, voilà, c'est pas le cas. La dernière fois, je crois que c'était à Sydney où c'était vraiment bien intégré, mais la plupart du temps, c'est toujours un peu à côté. Comment est-ce que vous l'avez vécu?
C'est toujours en décalé, et c'est vrai que là, pour une fois, de se retrouver un petit peu au cœur de la ville, je pense que c'était un atout. Moi, j'ai personnellement vécu la cérémonie d'ouverture.
C'était pareil. C'était
Tu t'en souviens plus, c'est ça?
Non, il savait pas si son pote était là. Tu vois, genre, t'étais là toi aussi? Ah bon?
Sympa.
Okay. Faites partie de la même fédération, assurez-moi. Hein, c'est ça.
J'étais focus sur Teddy, sur Tony. Quoi. Donc,
et d'ailleurs, après, comment vous l'avez vécu, cette cérémonie d'ouverture? Parce que pour une première fois.
C'était génial, quoi, de vivre un truc comme ça. C'était exceptionnel, surtout que voilà, on sentait vraiment que déjà qu'il y avait une équipe de France qui était, moi je connaissais pas grand monde, hein. C'est vrai qu'à la voile on est toujours en décalé par rapport à tout le monde et on se croise pas très souvent. Et là de vivre le truc, on a vraiment senti qu'il y avait une équipe de France qui était hyper soudée, quoi. Dire enfin voilà, Teddy il a attendu tout le monde pour porter le drapeau. On était tous en train de se bousculer les uns les autres, mais c'était vraiment, il y avait une grosse équipe, une grosse cohésion, on a senti un truc de dingue. Et puis de vivre ça, de rentrer dans le Maracana avec des dizaines de milliers de personnes autour, c'était franchement un moment d'adrénaline énorme, quoi.
Et vous allez faire la clôture?
Je pense que...
Dis-lui, hein, Julien, dis-lui si tu vas. Que vous fassiez une photo au moins.
Je t'appellerai.
Je t'appelle.
Bon, merci beaucoup, messieurs. C'est des jeux réussis, hein, pour l'équipe de France de voile. Il y a le titre, bien sûr, de Charline. La seule déception, ceux qui n'ont pas vraiment pu défendre leur chance, c'est sur le NACRA 17 avec Billy Besson et Marie Rioux. On les a pas vus, nous, ici, de la quinzaine. Ils étaient archi favoris. La blessure au dos de Billy, ils sont.
Mais là, il s'est fait opérer. A priori, ça s'est bien passé. Je crois qu'il s'est opéré hier.
Ouais, il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps. Et ouais. Moi, c'est vrai que j'ai vécu les jeux. J'étais en coloc avec Billy. On était dans la même chambre.
Il devait se morfondre, non?
Et c'était, je pense, franchement, un exemple pour tout le monde, quoi. Je pense que. Et
parce qu'il allait quand même en fauteuil roulant, c'est ça, à chaque fois, pour. On le portait pour aller jusqu'au bateau, quoi.
Enfin, moi, je lui ai apporté un plateau repas matin, midi et soir. Il ne pouvait pas bouger.
Ouais.
Il fallait pas bouger, et je crois qu'on s'est tous dit, bah là toi t'es à 100%,
ouais, t'as intérêt à y aller,
t'as intérêt de te donner, quoi, parce que là il y a l'autre qui se déplace en fauteuil roulant, il était capable d'enquiller quand même les manches de 1, il a fait des journées de dingue.
Ils sont revenus et ils ont failli disputer
ils ont disputé la medal race, et il était capable d'aller chercher une médaille quasi jusqu'au bout. Il était chaud.
On va vous laisser fêter ça avec les supporters qui sont dehors dans notre studio, qui est toujours vitré, hein, donc on voit,
oui,
tout. Vous êtes attendus, messieurs, allez-y, retournez-y. Julien Dortoli, Pierre Lecoq, merci
Bonne
beaucoup.
Soirée.
Okay. L'intégrale Rio 2016 continue, il est 5h sur RMC.